Alors, comme vous l'imaginez, j'espère, je n'ai pas demandé à Caroline de lire La pensée du moi. C'était sa propre initiative. Mais en fait, c'est elle qui me corrige. Donc, si les pensées du moi sont bien, c'est parce qu'elle les a réécrites, arrangées et tout. Hein, c'est elle, la vraie artiste derrière. Mais j'étais content qu'elle ait fait ce choix parce qu'en fait, cette pensée du moi, c'est le condensé en une page de ce que je vous ai partagé, le message avant Pentecôte. Hein, retrouver son âme. Donc vous avez le résumé. Et ce matin, j'avais prévu, avant de savoir qu'elle allait faire ça, je l'ai appris après, de continuer sur ce sujet pour le développer un petit peu plus. Voilà. Et donc perdre ou retrouver son âme, suite. Épisode 2, ça ne sera pas une série sur... non, elle va durer juste quelques années, mais... Donc du coup, j'ai pas à vous relire. Refaire le résumé, j'espère que vous avez un petit peu en tête. Hein. Donc l'idée, c'est que on a trop souvent réduit notre âme à quelque chose qui ira dans un endroit ou dans un autre après cette vie, puis sur Terre, pff, voilà, on travaille, on vit, on va, on fait des enfants, on continue, mais on s'en occupe pas tant que ça, quoi. Surtout en tant que chrétien, hein, parce que on a des choses à faire pour Dieu, tellement de choses à faire que ben, on en oublie notre être intérieur. Et puis ça, c'est dramatique. Et malheureusement, bah, vous savez, c'est quelque chose qu'on redit souvent parce qu'on réfléchit quand même pas mal sur ce que doit être l'Église. La semaine dernière, je vous avais partagé un petit texte que j'avais écrit aussi, mais c'était presque avec les trois mots de. C'était lettre de l'Église à mes amis, mes amours. Mais c'était pas les amen, c'était mes emmerdes, hein, le troisième. Mais, bah, ça se ressemble un peu quand même. Hein, je préfère amen. D'accord? Et dans notre réflexion sur l'Église, mais aussi en observant l'histoire de l'Église, hein, on voit qu'au départ, Jésus a dit faites des disciples. Donc, les disciples, c'est des gens qui vont vivre selon l'enseignement et le modèle de Jésus. Ça, c'est le but. Et puis, il a dit parmi les outils que je vous donne pour ça, il y a ce qu'on va appeler l'Église, le rassemblement de ceux qui ont cette foi en commun. Hein. Ça, c'était le but initial. Mais au jour d'aujourd'hui, et peut-être sous l'influence anglo-saxonne, l'Église est devenue comme une entreprise, un business, même si c'est le but, c'est pas de gagner de l'argent. Hein, mais et puis les gens qui viennent, au lieu d'être des gens à qui on va apprendre à vivre avec Christ, c'est les gentils employés qui font tourner l'entreprise. Hein. Et du coup, c'est tout faussé. Parce que si je veux des employés dans une entreprise qui marche bien, la dernière chose que je veux, c'est que mes employés réfléchissent. Je veux qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Quand je dis moi, ce n'est pas forcément quelqu'un tout seul. Alors on peut édulcorer, au lieu qu'il y ait un pasteur dictateur, on met un conseil, et puis ils sont trois à donner des ordres au lieu qu'il n'y en ait qu'un. Hein. Mais l'essentiel de ce qu'on appelle la vie d'église, c'est les projets. Hein. Le prochain bâtiment, les prochaines activités, les prochaines conquêtes, il y a des statistiques, il y a des graphiques, on compte, on regarde, il faut que ça aille de l'avant, que ça grandisse, que ça progresse. Ces choses peuvent être utiles si elles sont mises dans le bon sens, mais elles peuvent être graves. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même effet que ce que notre société de consommation dans laquelle on vit fait pour les êtres humains, nous empêcher de réfléchir à l'essentiel. Hein? Je lisais un article l'autre fois sur les bienfaits de l'ennui pour les enfants. Nos enfants n'ont plus le droit de s'ennuyer. Il ne faut pas qu'une seconde, ils s'ennuient. Ils ont trois activités en même temps, ils ne doivent jamais s'ennuyer. Hein? Et c'est dramatique. Si on s'ennuie plus, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes. On est juste à être occupé tout le temps. Et quand je ne suis pas occupé, il y a un malaise tellement grand que je cherche vite l'occupation d'après. Et qu'en fait, quand je n'ai pas au moins cinq occupations d'avance prévues, je me sens mal. Hein? Alors voilà, tout ça, c'est pour situer un peu le sujet dans lequel on est. Et là, au milieu, il y a ce que nous disent les Écritures sur prendre soin de notre être intérieur, de ce qu'on est réellement. Et ce matin, j'aimerais zoomer un petit peu, vous vous rappelez, à l'époque où je vous ai fait plein de PowerPoint, là, ça s'est arrêté, ça reviendra. Hein. Mais ce que je voulais essayer d'exprimer par ces PowerPoint, c'était on doit être capable dans notre esprit, dans nos références, dans notre bibliothèque intérieure, dans notre mode de pensée, de passer d'une vue d'ensemble à un gros plan et même à rentrer en détail avec le microscope. Hein. Au jour d'aujourd'hui, avec les outils qu'on a dans l'informatique, on est familier avec ça. Quand vous allez sur Google Earth, par exemple, Vous pouvez voir la planète vue de la Lune ou je ne sais pas où, hein, une bille bleue comme ça. Et puis vous pouvez zoomer, puis hop, un continent, un pays, un endroit, une ville, là. Mais après, si vous changez d'outil, vous pourriez arriver sur un arbre. Et puis si on change d'outil, on arrive dans les cellules de l'arbre, et puis on arrive dans ce qui compose les cellules de l'arbre, et puis on peut continuer comme ça jusqu'à très très bas, et puis reculer de nouveau et voir la planète. Ce matin, j'aimerais zoomer un petit peu sur l'être intérieur. Je vous avais dit que dans le cadre de ce que j'ai partagé, dans le cadre de la pensée du moi qui a été relue, j'ai appelé âme tout ce qui était notre être intérieur. Et c'est correct, on peut l'appeler comme ça, souvent on l'appelle comme ça. Maintenant, j'aimerais voir une distinction que l'apôtre Paul fait, en tout cas une fois ou l'autre, et qu'on trouve dans la Bible, même s'il y a des discussions sur ce sujet. Je vous lis un verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ça, c'est quand j'ai beaucoup de choses à dire. J'essaie de condenser en parlant plus vite. C'est pas bien. On va baisser. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une salutation à la fin d'un courrier que Paul écrit à des amis chrétiens, et il leur dit que le Dieu de paix vous mette à part. Sanctifier, ça ne veut pas dire devenir parfait, ça veut dire être mis à part pour la tâche pour laquelle on est prévu. Hein? Lorsque j'utilise mon stylo pour écrire, il est sanctifié, ça veut dire qu'il fait ce pour quoi il a été écrit. Si je l'utilise pour déboucher mon évier, il n'est pas sanctifié. Pas parce qu'il se salit, parce qu'il n'a pas été fait pour ça. Hein? Lorsque j'utilise un violon pour faire de la musique, il est sanctifié. Si je l'utilise pour pagayer, il n'est plus sanctifié. D'accord? Donc, il faut oublier cette idée qu'être sanctifié, c'est ne pas faire d'erreur. Parce que quand j'écris, je peux écrire faux, hein, mon stylo, je peux faire des fautes d'orthographe. Mais il fait ce pour quoi il est fait. Hein? Être sanctifié, c'est être mis à part pour ce pour quoi on est fait. Donc que notre être entier soit sanctifié, ça veut dire que notre corps, notre âme et notre esprit doivent faire ce pour quoi ils ont été créés. Et dans ce verset-là, on a ces trois distinctions, le corps, l'âme, l'esprit. Alors, il y a des discussions théologiques qui ne nous intéressent pas sur savoir si l'âme est réellement distincte de l'esprit ou est-ce que l'esprit est une partie de l'âme. On s'en moque royalement, du moment que les trois y sont, hein. Que vous disiez c'est deux, mais dans la deux, il y a deux, et puis ça fait trois, ou que vous disiez il y a trois différents, c'est pareil. Hein. Donc en tout cas, là, Paul cite les trois mots distincts. Le corps, ça on sait assez facilement ce que c'est, parce qu'on le voit. L'âme, c'est un peu plus compliqué, parce que ça peut englober des choses différentes, mais l'âme comprend tout ce qui est à la fois émotionnel, intellectuel et de la volonté. Donc mon âme, c'est mes émotions, mon affect, mes ressentis, mon instinct, ces choses-là. C'est aussi mon intelligence, ce que je comprends, etc. Et c'est aussi mon pouvoir de décider, de dire oui, non, et de faire des choix. Hein. Et là, Paul dit aussi l'esprit. Et l'esprit, c'est encore une troisième partie. Et je dirais que, malheureusement, il me semble que c'est celle qui est la moins connue, parce qu'il y a des raisons à ça, hein, la moins utilisée, alors qu'elle est essentielle. Les mystiques des premiers siècles de l'histoire de l'Église, pour parler du corps, de l'âme et de l'esprit, utilisaient certaines images. Et l'une d'entre elles, qui est assez facile, après je vous en donnais une de notre époque, mais c'était la lampe à huile. Dans une lampe à huile, il y a un récipient, en général en terre cuite, mais pour être autre chose, hein, un récipient qui va être le corps de la lampe. Ça, c'est notre corps. Facile. L'âme, c'était l'huile. Hein, on met l'huile dans le récipient. OK. Et l'esprit, c'est la mèche. C'est pas le feu, c'est la mèche. Mais cette mèche qui trempe dans l'huile et qui est contenue dans le récipient, elle peut, au contact de Dieu, qui est la flamme, s'enflammer et puis éclairer le tout. Donc ça, c'était un des exemples qui était utilisé. Maintenant, moi, j'ai choisi un exemple un peu plus contemporain. Ça, vous savez ce que c'est, tous. Hein, c'est un ordinateur portable. Alors, cet ordinateur qui fait aussi tablette, si vous le voulez, parce que maintenant ils sont bien, il se met à l'envers aussi, voilà. Il a un corps. Ce corps, vous pouvez le voir. J'essaie de ne pas le tomber. Facile à voir. Après, il a une partie qu'on ne voit pas et que certains comprennent. Pas moi, mais des gens comme Achille et d'autres comprennent ce qu'il y a dans ce corps-là. Hein. c'est toute l'intelligence, entre guillemets, de la machine, plus toutes les applications qu'on met dedans. Hein. Et ça, ça fait que ce corps visible, il a une certaine forme d'intelligence, il y a des choses qui se passent. Mais un ordinateur d'aujourd'hui, comme celui-là, s'il n'a pas à l'intérieur ce qu'il faut pour être connecté au réseau, qu'on appelle Internet, à la toile, à ce que vous voulez, il est très limité, même s'il est puissant. Hein. Oui, il fait des choses, mais il fait des choses là où vous êtes maintenant. Ça s'arrête là. Alors, dans notre illustration, on pourrait dire que ça, c'est le corps, bien sûr. Hein. Toute la partie, le software dedans, et puis les applications et tout ce bazar-là, c'est notre âme. Et puis, il y a la connexion. Et la connexion nous permet d'être en contact avec quelque chose qui est plus grand que nous, mais auquel on peut être connecté. Hein. Quand je suis connecté à Internet, je ne suis pas Internet, mais je suis connecté à Internet. Hein, voyez. Donc l'esprit, c'est tout ce qui permet le modem, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, comment ça fonctionne, ce n'est pas du tout mon domaine, excusez-moi, mais c'est ce qui fait que ce machin-là qui est ici, là, qui est matériel, si je le tombe, il se casse, je me ferai gronder. Voilà, c'est plus que ça. Ce à quoi ça peut être connecté est des milliers de fois plus grand que ce qu'on voit là. Et beaucoup d'entre nous, en tant que croyants, on vit, alors notre corps, ben on vit avec, on l'aime pas, il nous plaît pas, on en prend soin, on n'en prend pas soin, mais à moins que vous ayez complètement supprimé les miroirs chez vous, on le voit de temps en temps, quoi, hein, on sait qu'il est là. Notre âme, elle se manifeste aussi parce qu'on a le blues le matin, ou au contraire, on est joyeux, on est content, on est triste, on a des questions, on s'interroge, on n'a pas assez de volonté pour faire ci, faire ça. On est amoureux, on ne l'est plus, on souffre de solitude. Notre âme, elle se manifeste. Notre esprit, si déjà on n'est pas conscient qu'on en a un, et si on ne cherche pas à en faire quelque chose, ben, on n'en fait rien. Hein. Quelqu'un qui n'aurait pas de notion d'informatique, si je lui donne cet objet, s'il est juste curieux, à force, il va trouver le bouton pour l'allumer quand même. Hein, s'il est un peu curieux. Et puis, il va voir qu'il y a des choses qui se passent dedans. Et puis, ben, s'il cherche un peu et qu'il est plus intelligent que moi, il va arriver à faire certaines choses avec. Mais si on ne lui dit pas qu'avec ça, il peut se connecter à un réseau immense avec des milliers d'autres personnes, des milliards d'autres personnes qui sont connectées dessus, des possibilités infinies, il ne va pas le découvrir tout seul. Parce que voilà, ça ne vient pas à l'esprit. Le langage est compliqué. Ça ne vient pas à la pensée. Hein, voilà. Le langage est source de malentendus, vous le savez. Mais si je me tais, vous en saurez encore moins. Alors, je parle quand même. Notre esprit, lorsque nous naissons sur Terre, nous l'avons tous. Hein. L'esprit, c'est pas un truc que les chrétiens ont, les autres n'ont pas. Hein. On est tous équipés de ce qu'il faut. Mais on a besoin que cet esprit soit reconnecté à Dieu. Hein. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, que ça se passe en une fois, en 6 mois, en 10 ans, en 15 ans, mais il y a un moment, ouais, et pour beaucoup de gens, je pense peut-être même la plus grande partie, à part certaines dans la tradition la plus pure évangélique qui ont levé la main et ils savaient qu'avant ils allaient en enfer et après ils n'y allaient plus, mais la plupart des gens ne peuvent pas dire à quel moment ils ont été conscients qu'ils pouvaient se connecter à Dieu, mais à un moment ils se sont aperçus que « Ah, il y a une petite icône qui s'est allumée, là, je suis connecté hein ». Des fois oui, des fois non, mais je peux être connecté à Dieu. Donc c'est une expérience qui doit être faite une fois déjà, découvrir qu'on peut se connecter à Dieu, mais qui n'est pas faite une fois pour toutes, pas dans le sens où Dieu disparaît ou qu'on ne l'a plus, hein, mais être conscient de cette connexion. Là, mon ordinateur, il dort, mais il est connecté quelque part. Peut-être là, il n'est pas parce qu'ici, il n'y a pas le réseau, je ne sais pas. Mais il est potentiellement connecté, mais en ce moment, il ne l'est pas parce que je ne m'en sers pas. Quoi, hein. Notre esprit, on doit justement chercher à le connecter avec Dieu. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que notre esprit ne se trouve pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur. Et quand on pense à Dieu, tout le temps on dit le ciel. Hein. Alors c'est joli, c'est poétique, moi j'aime ça, mais Dieu n'est pas dans le ciel, dans le sens où il serait, je ne sais pas moi, si même si on prenait des navettes spatiales qui puissent voyager à travers le temps, le Faucon Millennium qui permet d'aller à l'espace-temps, d'arriver encore après, on n'arrivera pas à Dieu comme ça. Hein. Parce que l'univers est dans le temps et l'espace qui ont été créés par Dieu, et Dieu est hors du temps et de l'espace. Donc on ne peut pas le trouver dans le ciel. Hein. Alors où on va le trouver? Ben, on ne le trouve pas dans un bâtiment avec une croix et une cloche qu'on appelle l'église, surtout pas. Ça, c'est ce que Dieu appelle le parloir. C'est là où il vient une fois par semaine, faute de mieux, essayer de rencontrer les gens qui pensent à lui que le dimanche matin, une heure. Hein. Moi, j'appelle ça le parloir. Les gens appellent ça l'église. Bon, c'est un bâtiment. Mais Dieu, pour le rencontrer, il ne faut pas monter, il faut descendre. Pas descendre à l'enfer non plus, mais l'enfer n'est pas non plus en bas. Hein. Jules Verne a essayé, ce n'est pas là qu'il y a l'enfer. Descendre en nous, hein, dans ce que les mystiques avant nous appelaient l'intériorité. Descendre en soi. Alors là, ça fait peur parce qu'on dit, ouh, ça c'est New Age, descendre en soi, chercher le Dieu qui est en nous. Non, non, ce n'est pas que Dieu est en nous, Dieu est partout, hein. Mais c'est que la connexion avec Dieu se fait par l'endroit le plus profond. Descendre dans le sens profondeur. Hein. Le corps et l'âme fonctionnent à l'horizontale. On est sur terre, on voit nos corps, on voit les gens, enfin, j'espère qu'on les voit un peu, etc. Mais l'esprit, c'est horizontal, c'est, non, j'ai dit horizontal, vertical, si j'ai un peu de mal entre ces deux dimensions. Hein. Vertical. Donc oui, dans ce sens-là. Et c'est en cherchant, ou plutôt en étant tranquille et en laissant descendre tranquillement à l'intérieur de nous, qu'on va découvrir qu'on a ce modem-là intérieur, on l'a tous, et on l'a peut-être jamais utilisé, hein, et qui peut nous permettre d'être connectés à l'esprit, je dirais, au-delà de l'interface du corps et de l'âme. Lorsque les choses se passent normalement et se passent bien, notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, à Dieu l'esprit plutôt, c'est la même chose. Mais... Et en fait, parce que notre esprit est au-delà de notre partie réellement, pleinement consciente et intelligente, il va remonter des choses jusqu'à notre âme et puis éventuellement jusqu'à notre corps, ce qui fait qu'après un moment où j'ai vécu connecté avec Dieu dans mon esprit, mon âme peut être remplie de joie et mon corps peut se mettre à danser, si c'est mon tempérament. Ou au contraire, je vais rester immobile, parce que c'est comme ça que je m'exprime quand je suis joyeux. Peu importe. Hein. Ça, c'est juste la traduction par les interfaces interposées. Mais ce qui est important, c'est que mon esprit puisse être connecté à l'esprit de Dieu. Hein. Pourquoi vous pensez que Jésus, qui était homme et Dieu, mais qui n'avait pas de péché en lui, etc., avait besoin de prendre ses nuits seules sur la montagne, de partir, de, etc. Parce que même Jésus, parce qu'il était humain, sans péché mais humain, au milieu d'une foule en train de guérir des malades, de faire ça, de prêcher, d'aller, de venir, de répondre, de supporter ses disciples qui étaient pénibles, de faire ci, de faire ça, il ne pouvait pas. Hein. On ne peut pas vivre ça comme ça. On a besoin, et là on revient à ce que Caroline nous a relu, hein, on a besoin d'espace, de temps. De, etc., etc., de toutes ces choses-là où il n'y a pas de raccourci. Hein. On invente des technologies incroyables pour faire des choses magnifiques, hein, mais heureusement, il n'y a pas de technologie qui remplace le temps, il n'y a pas de technologie qui remplace la qualité du temps. Il n'y a pas de technologie pour apprendre la patience. Si, quand ça ne marche pas, ça nous apprend la patience, mais moi, en général, ça m'apprend plutôt l'impatience, hein, et l'énervement. Et on a besoin de ça. En fait, la spiritualité, on pourrait dire que plutôt le corps et l'âme sont dans la religion. Alors des fois, j'utilise la plupart du temps la religion dans un sens négatif, hein, mais là, ce n'est pas le cas. Le corps et l'âme sont dans la religion. Ils vont, ils font, ils s'écoutent, ils s'assoient, ils se déplacent, ils vont dans un bâtiment, ils n'y vont pas, ils vont visiter quelqu'un, ils font des choses. L'âme, elle n'est pas dans ce domaine-là. L'esprit n'est pas dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que si je n'apprends pas à rentrer en moi-même pour connecter mon esprit avec l'esprit de Dieu, et si je suis quelqu'un qui est curieux et qui me pose beaucoup de questions, je vais passer ma vie à remettre ce qui est horizontal en question, c'est-à-dire il faudrait une autre forme, une autre façon de faire, un autre bâtiment, un autre style de rencontre pour que je puisse être satisfait. Et en fait, on ne réalise pas que ce n'est pas ça. Si je suis connecté dans mon esprit à l'esprit de Dieu, mais je peux être dans n'importe quelle forme, et je suis rempli, et s'il n'y a pas cette connexion qui est active, je peux être dans n'importe quelle forme, même celle qui serait parfaite pour moi, et je me sentirai toujours avec de l'insatisfaction en moi. C'est pour ça qu'on trouve des croyants dans toutes les traditions catholiques, orthodoxes, protestantes, évangéliques, tout ce que vous voulez, même dans des trucs farfelus. Hein. Mais au milieu de ça, il y a des gens qui sont bien, qui sont rassasiés, pour un moment, hein, et qui savent où se rassasier, parce qu'ils ont trouvé comment connecter leur esprit avec l'esprit de Dieu, puis pff, la forme, elle est ce qu'elle est, elle pourrait être mieux, elle pourrait être moins bien. Hein. Mais si... L'Église, c'est juste changer les formes, d'autres activités, moins d'activités, plus de gens, moins de gens. Et qu'on n'en vient pas là, c'est dommage. Et vous savez à quel moment on n'échappe pas au révélateur de notre état spirituel, dans ce sens-là ? C'est si on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, de vivre très vieux. Et on arrive à un moment où on ne peut plus rien faire. Si on arrive à aller du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, manger éventuellement, c'est tout ce qu'on arrive à faire, certains moins, mais... Et là, tout d'un coup, on voit des gens qui ont l'impression qu'ils ont été des chrétiens extraordinaires, hein, et puis ils sont déprimés, ils vont pas, ils sont abattus, ils sont... Il peut y avoir des raisons physiques à ça, parce que le corps et l'âme, tout est lié, hein, l'esprit, on ne peut pas les dissocier. Hein. Mais souvent, quand même, malheureusement, la raison, c'est qu'ils ont vécu qu'à l'horizontale leur vie chrétienne. C'était des faiseux, des activeux, des gens qui sont bien quand ils font. Mais le jour où la vie, petit à petit, alors s'ils ont de la chance de mourir jeune, ben c'est bien, je dis ça sans méchanceté. Hein. Non, mais c'est vrai, on aimerait tous mourir en bonne santé quand on peut encore tout faire. Quoi. Mais si on a cette chance ou malchance de vivre jusqu'à cet âge-là, et que petit à petit, on perd tout ce qu'on pouvait faire, et il ne nous reste plus que ce qu'on est, et là, on voit deux catégories de gens. Des gens qui sont paisibles parce que oui, ils aimaient mieux quand ils pouvaient faire, hein, tout le monde, hein, mais il leur reste quelque chose d'essentiel. La connexion, elle n'est pas partie. Parce qu'en fait, le privilège de la vie spirituelle, c'est assez fou comme histoire. Hein, à une époque où on aime les films d'extraterrestres, de science-fiction, de machin, j'aime beaucoup ça aussi, de réaliser que quand je peux me connecter par mon esprit à l'esprit de Dieu, je sors de l'espace et du temps. Notre esprit reste juvénile. Il ne vieillit pas. Notre âme, d'une certaine façon, on dit elle ne vieillit pas. Oui, dans le sens où ouais, on peut toujours penser comme quand on était jeune. Mais elle vieillit, elle s'use. Hein. On peut devenir amer, on peut devenir fatigué, on n'a plus d'énergie. On peut travailler dessus. Mais notre esprit, lui, il est intemporel. Parce que c'est ce qui va rester. Enfin, moi, je pense aussi qu'une partie de notre âme, sauf ce qui est le péché, va aussi passer dans l'autre vie. Hein. C'est très personnel comme idée. Je ne peux pas la prouver par des versets bibliques, mais je le crois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre esprit est intemporel. Et alors, dans ces moments où je suis connecté avec Dieu, par mon esprit, je suis pour quelques instants hors du temps et de l'espace. Et là, il n'y a pas d'usure. Et si, en fait, j'apprends à développer ça, le jour où j'aurai plus que ça parce que je ne pourrai plus rien faire, ben, je n'aurai pas rien. J'aurai encore quelque chose d'essentiel. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à développer là-dessus, puis je vois que déjà le temps file. Je voudrais juste donner trois petites choses. Vous lire d'abord une petite citation de saint Augustin, qui a découvert ces choses-là un peu tard dans sa vie, et il dit « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi, au-dehors. » Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié que je suis, tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses que pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Et c'est intéressant comme réflexion parce qu'il y a tout ce rapport entre le monde visible qui a été créé par Dieu. Alors, c'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait, ça nous fait penser à lui. Mais en même temps, si on le cherche là-dedans, on va rester dans notre corps et dans notre âme. On ne va pas arriver à la dimension spirituelle profonde, hein, qui est de se connecter avec Dieu. Et puis, il y a aussi ces moments... et ce sera les trois dernières choses que je veux voir brièvement, où on dirait c'est la vie de l'esprit, la vie spirituelle, ou cette connexion qui vient à nous. Hein. On devrait être capable de la cultiver, de la chercher, de la développer, mais des fois, elle vient à nous. Et elle vient à nous par trois portes essentielles. La première, c'est l'amour. Lorsqu'on vit dans la dimension de l'amour, et quand je dis l'amour, j'inclus l'amitié dedans, même l'amour des enfants, même si, ou de la famille, mais toutes les formes d'amour. Quand on vit un amour qui est équilibré, qui n'est pas dans la possession ou ces choses-là, une des raisons pour lesquelles c'est beau, que ce soit l'amour, amitié, l'amour entre un homme et une femme, etc., c'est parce qu'en fait, à un moment, on a cette petite étincelle qui vient et qu'on est conscient qu'il y a un idéal d'amour parfait, hein, qu'on cherche tous d'une certaine façon. Et cet amour-là, c'est justement, il nous est révélé par cette connexion de notre esprit à Dieu. Hein, parce qu'on a été fait pour aimer, que ce soit encore une fois nos amis, notre partenaire, ou etc., les gens autour de nous, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et l'amour nous donne ces petites fulgurances de cet amour encore au-delà. Hein. Et c'est ce qui fait que l'amour entre humains est beau, hein, que l'amitié est forte et belle et tout, parce qu'il y a ce petit goût dedans qu'on retrouve. Vous savez, un petit peu, pour ceux qui ont un peu plus de 25 ans, on va dire, quand vous arrivez à un certain âge et que vous retrouvez, parce que le goût est le support de mémoire le plus puissant chez l'être humain, hein. Il y a aussi le son, les ambiances, etc., mais le goût, c'est vraiment très très fort. Et quand on a un certain âge et que tout d'un coup, au hasard de quelque chose, on goûte, ou même on sent, parce que c'est tout à fait lié les deux, le goût de quelque chose qu'on mangeait quand on était tout petit et qu'on n'a plus mangé depuis des dizaines d'années, hein. Et alors, ouf, ah, ça, on n'arrive même plus à se rappeler où c'est qu'on l'a mangé. C'était chez ma grand-mère, c'était là. Mais on sait que c'est, on fait un voyage là en quelques secondes. Hein. Et ben, l'amour, il y a cette chose-là avec l'amour de Dieu dedans, quand on aime, quand on est avec des amis. On pourrait développer ça beaucoup. Peut-être que j'y reviendrai une fois. La deuxième porte, c'est la beauté. Que ce soit la beauté, alors ce qu'on appelle la création, la nature, etc., la beauté d'un visage, la beauté d'un enfant qui court, la beauté dans une œuvre d'art, la beauté sous toutes ses formes, hein, peut, je ne dis pas toujours et pas obligatoirement, mais peut aussi nous donner cette petite étincelle qui nous dit il y a une autre beauté encore plus grande. Hein. Et c'est pour ça que ceux qui ont une inclinaison à être plus sensible à la beauté, parce que comme pour tout le reste on n'est pas égal avec ça, vont être peut-être des gens plus mélancoliques mais aussi plus disposés à chercher ou à fuir. Rappelez la carotte et l'œuf, hein, toujours, hein, l'eau bouillante qui durcit l'un et ramollit l'autre, donc l'un ou le contraire, hein, mais peut nous amener à rechercher cette beauté, parce que sans faire trop long, la sensibilité à la beauté est inexplicable par l'évolution et la sélection naturelle. Être sensible à la beauté nous rend en rien plus performant, au contraire, ça nous rend sensible, ça nous rend délicat. Hein. Dans le monde animal, le lion, il choisit pas la lionne la plus belle, il choisit celle qui portera les plus beaux enfants, qui sera la plus costaud, etc. Le mâle, c'est pas le plus beau qui gagne, hein. S'il est balafré, on s'en fout, c'est celui qui a été capable de bouffer les autres. Donc, dans le monde physique, la sensibilité à la beauté est un handicap. Hein. Parce que si je choisis la femme qui me choisit paraît la plus belle, c'est peut-être pas celle qui va donner les enfants les plus robustes, les plus sains, les plus costauds pour perpétrer la race, c'est celle que je trouve belle. Il se trouve que peut-être elle n'est même pas fertile et puis on n'aura pas d'enfant, mais ce n'est pas grave parce que c'est elle que je trouve belle, hein, etc. Donc le fait d'être touché par la beauté, et la beauté, donc là je parlais dans l'amour, mais la beauté des paysages, etc., ça ne nous apporte rien pour devenir plus efficace, plus performant. Mais c'est là en nous et ça peut nous amener cette étincelle-là. Et la troisième, qui est plus courante pour tout le monde, c'est la crise. Hein. Les problèmes, les emmerdes et tout ce que vous mettez, la crise. Ce qui, dans nos vies, fait que tout d'un coup, envie ou pas envie, je suis arrêté parce qu'il y a un gros problème. Mais là aussi, tant que je cherche des solutions extérieures à la crise ou que je suis dans la fuite, ça ne m'aide pas. C'est juste des problèmes. Mais si la crise, le problème, la difficulté me donne l'occasion, me pousse, me suggère l'idée que peut-être il faudrait que je m'arrête. Peut-être il faudrait que je laisse poser les choses. Peut-être il faudrait que je prenne le temps. Et puis que j'arrête un peu de faire du bruit, de faire des choses et de... Au lieu d'essayer de remuer tellement que l'eau est trouble pour essayer de remonter à la surface, de me laisser couler. Pas pour mourir, mais pour toucher le fond et découvrir qu'il y a une autre sortie. Quand j'étais adolescent, on va dire, il y avait un endroit où j'adorais aller dans les Cévennes, avec une grosse cascade, je sais pas, pas très très haute, mais 5-6 mètres. Et c'était assez dangereux, mais on aimait beaucoup y aller, parce que quand on plongeait ou sautait de cette cascade, quand on arrivait en bas, on ne pouvait pas remonter. Donc il fallait savoir avant, sinon on pouvait rester bloqué, parce que la force de l'eau, le tourbillon faisait qu'on ne pouvait pas remonter. Mais si on se laissait emporter, qu'on coulait... Après, il y avait un orifice dans le rocher, on faisait 2 mètres comme ça et on ressortait dans une petite marmite hein, où on pouvait ressortir, respirer et remonter. D'ailleurs, chaque fois qu'on allait à cet endroit avec des nouvelles personnes, on leur faisait une frayeur. Parce que nous, on était dans la marmite en train de respirer, puis les gens croyaient qu'on était bloqués sous l'eau et commençaient de paniquer, etc. Et juste avant qu'ils appellent les secours, on sortait de la marmite. C'était... À 14 ou 15 ans, je vous assure, c'est jouissif. Bon, voilà. Et cette expérience que j'ai jamais oubliée, j'y ai repensé en pensant à ce sujet parce que c'est ça, en fait. Au lieu d'essayer à tout prix d'eux, hein, accepter que la solution, elle est peut-être ailleurs. Et là, il fallait juste se laisser porter par l'eau parce que le courant nous tirait vers le bas. Et tout d'un coup, on voyait cette belle ouverture parce que comme elle était reliée à la lumière, c'était plus clair. Hop, on s'engouffrait dedans, 2-3 mètres, et puis pouf, on sortait à l'air libre, dans un endroit sans courant, tranquille, caché dans le rocher. Puis on écoutait les gens dehors. Mais tu crois qu'il ne remonte pas? Il va remonter. Ça fait une minute, il peut tenir aussi longtemps. Quelqu'un a attendu 12 minutes avant de se décider à appeler les secours. Il devait croire que j'avais une branchie. Ou il voulait ma mort, je ne sais pas. Mais se laisser couler en Dieu pour que notre esprit puisse être connecté avec son esprit. Et puis... La vie spirituelle, elle ne s'explique pas, elle ne se prouve pas, mais quand on l'a vécu, on le sait. C'est comme être amoureux, on ne peut pas prouver qu'on est amoureux. Tout ce que fait quelqu'un d'amoureux, je peux le faire sans être amoureux. Facilement, ce n'est pas compliqué. Moi aussi, je peux embrasser, offrir des fleurs, tenir la main, faire ci, faire ça. Je peux tout faire, mais il y a ce sentiment ou pas, cette chose profonde. La vie spirituelle, c'est pareil, on pourrait essayer d'imiter, ah oui, je fais du silence, non, ça, on peut pas l'imiter. Mais par contre, quand on l'a vécu, on le sait. Et je termine avec cette petite citation de mon maître à penser du moment, ne vous inquiétez pas, ça va changer, je ne reste pas toujours longtemps sur le même. Il dit ceci, Monsieur Bobin, toujours, « Ne croyez pas que je sois bon, sage ou même intelligent. Croyez seulement... à ce que j'ai vu, car je l'ai réellement vu. » Et c'est ça qui est magnifique lorsque je vis connecté à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que je deviens plus intelligent que les autres, meilleur, plus cultivé, etc. C'est juste qu'on a vécu un moment hors du temps et de l'espace dans la connexion avec l'Esprit de Dieu. Et ce qu'on a vécu, on l'a vécu. C'est ce qui fait que, je reviens au thème des épreuves, vous savez, quand on a la grosse vraie épreuve, je ne parle pas d'une écharde dans le pied, hein, la grosse épreuve qui vous tombe dessus, et qu'il y a des moments dans cette épreuve où on se dit, mais ce n'est pas possible, je ne pouvais pas tenir, et j'ai tenu, j'ai traversé. Alors, une partie, c'est la force de caractère, de l'âme, etc. Hein, mais il y a une partie qui est surnaturelle. La lumière qu'on voit dans ces moments-là, ou le réconfort, ou c'est ce qui a donné naissance à... Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. La plus connue, c'est, vous savez, l'empreinte dans les pas, où on ne voyait plus qu'une empreinte de pas, mais c'est parce que dans ces moments-là, je te portais, hein, c'est très connu, ce truc-là. En fait, c'est ces moments-là où on a vécu, porté par la vie spirituelle, réellement. Et puis après, même si... Ben, c'est pas, ouais, on n'a pas accès comme on veut, quand on veut, c'est quand même pas aussi simple qu'un modem sur un ordinateur. Mais on l'a vu, ça existe. Hein. C'est pour ça que les apôtres disent tous, nous avons vu, nous avons goûté. Si vous avez goûté, si vous avez expérimenté que le Seigneur est bon, hein, ça parle de ça, d'avoir... Hein. Et puis après, il y a ces moments où justement, ben, la beauté, l'amour, le ci, le ça, et puis la méditation des Écritures, bien sûr, par excellence, nous ramène... à ça, et puis pouf, on va être reconnecté. Mais voilà, ça demande déjà qu'on le sache, qu'on en ait envie, qu'on prenne du temps et qu'on arrête de chercher des solutions là où il n'y en a pas. Ce n'est pas une autre forme, une autre façon de faire, un autre bâtiment, d'autres personnes autour de moi qui peuvent le changer. C'est juste moi qui dois accepter de faire face et puis de dire « Seigneur, je vais couler et puis je vais me laisser couler jusqu'à ce que tu me rattrapes. Puis s'il n'y a pas de fond et si tu ne me rattrapes pas, ben tant pis. » Et on met Dieu au défi d'une certaine façon comme ça, et puis on se calme, et puis on descend, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que effectivement on a des branchies, on respire sous l'eau, on est bien, et puis on a un moment de communion avec lui, après ben, on remonte à la surface, on continue de vivre. Le but c'est pas de vivre en ermite dans la méditation, c'est de pouvoir affronter l'activité, les choses à faire, en ayant une ressource qu'on sait où trouver quand on en a besoin, pour être actif dans le travail, avec nos familles, avec nos enfants, dans le témoignage, hein, tout ce qu'on a à faire, mais avec la vraie énergie. Et pour terminer la boucle par rapport à l'Église, alors si les programmes dans les églises, les nouveaux bâtiments, les choses, les ci, les ça, et là, sont le résultat de cette vie profonde, alors c'est super, parce qu'il faut des choses. Mais si on fait ces choses-là pour ne pas sentir ce vide et pour l'éviter, là c'est grave. Et puis l'autre conséquence, c'est que lorsqu'on apprend à vivre comme ça, on devient beaucoup moins manipulable. Parce qu'en fait, la seule chose qui peut vraiment nous satisfaire, c'est ces moments de connexion. Et donc, on n'est plus prêt à vendre notre âme pour n'importe quoi, pour une position, pour être devant, pour être vu, pour être plus riche, pour avoir une monde plus chère, pour que les voisins disent. On s'en fout, parce qu'on sait que tout ça, finalement, ça n'a pas de goût comparé à ce que j'ai goûté. Et je deviens un être libre, parce que les gens n'ont plus de moyens de pression sur moi. Pensez ce que vous voulez de moi, dites ce que vous voulez de moi. Moi, je sais où je vais me nourrir. Et quand je remonte à la surface, je suis libre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, mais aussi de douloureux, parce que plus on goûte à ça, et plus on est insatisfait avec tout le reste. Et il y a une certaine solitude dans le monde où on vit, une certaine douleur, une certaine difficulté, parce qu'on a l'impression d'être un étranger, même avec nos proches, même avec des gens qu'on aime, même dans l'église, parce que c'est ça qu'on voudrait, et puis on l'a goûté un tout petit peu, puis quand on en parle, les gens vous regardent comme illuminé, ouais, il est un peu bizarre, il est trop sensible, il est, etc. Et c'est douloureux, sérieusement. Et en même temps, on n'échangerait pas ça pour autre chose, parce que c'est magnifique. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que de temps en temps, notre âme, parce que là, c'est l'âme, se connecte avec une autre âme, et on sait, à la seconde où on se connecte, qu'elle sait. Qu'elle aussi, elle a connecté son esprit à l'esprit de Dieu. Et là, il n'y a pas besoin de mots, on est dans ce que la Bible appelle la communion des saints, hein, qui n'est pas juste être ensemble autour d'une table à boire des bières, et puis on est en communion. Non, c'est bien. C'est pas pire. C'est mieux que d'être seul devant un ordinateur, sérieusement. Hein. Il vaut mieux être une table à boire des bières avec quelqu'un que seul devant un ordinateur sur une vie virtuelle. Mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Hein. Et quand on le découvre, c'est magnifique, avec tous les inconvénients qu'il y a, mais c'est quand même la bonne direction. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu pour nous, pour toutes les dimensions de l'être humain. Merci parce que chacune a son importance. Tu veux que notre corps soit au mieux et puis que c'est notre seul véhicule sur cette terre, on doit en prendre soin. Tu nous as donné une âme pour apprécier les choses, pour vivre plein de choses. Et on veut aussi la développer. Et puis tu nous as donné un esprit pour qu'on soit connecté avec ton esprit et qu'on atteigne ta réalité, même si on ne peut pas la mettre avec des mots. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, inventer, mais on te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux, de nous donner la motivation, l'envie, le courage, tout ce qu'il faut pour te chercher, parce que tu veux nous rencontrer, tu veux nous trouver. Alors merci pour tout ça, merci pour ce que tu fais. Sois glorifié, Seigneur Dieu.